Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 83, chapitre 13. Je me suis fait littéralement engueuler par mon collègue, le théologien Rafael Eduardo Rubio Carrero. Je l'appelais pour lui faire part de mes doutes. Je dus éloigner le combiné de mon oreille tant sa voix aiguë y résonnait, et il faut bien le dire, tant je goûtais peu d'être critiqué. Un gros reste d'ego. Comment peux-tu être aussi naïf ? Saperlipopette. Les religieux sont des êtres humains comme les autres. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en sais si ce gars Rinpoche est coupable ? Et s'il l'était ? Ça l'empêche d'être sincère dans son livre ? Tu me déçois. Je pensais que tu nous préparais un livre sérieux. Tu vas écrire sur l'écho des stars ? Ça dura ainsi pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il se lasse et conclue qu'il devait me quitter, mais qu'avec plaisir. Il m'invitait à une petite discussion dans sa cantine. Allais-je me déplacer pour un savon ? Je n'en étais pas sûr lorsque je reposais de mon côté le téléphone. L'effet fut positif néanmoins. Je m'intéressais moins à la culpabilité du bouddhiste après ses réprimandes. Je me demandais si Raphaël n'avait pas voulu me rendre service. J'étais retourné seul au Père Lachaise. J'avais prétexté une envie de me promener au quartier latin entre une exposition au Palais du Luxembourg et les librairies. La visite au Palais du Luxembourg n'était que partie remise, j'en reparlerai. Je me disais qu'habitant Paris, je ferais bien de ce cimetière un lieu de promenade. N'y voyez rien de morbide. C'est un lieu qui n'évoque pas la froideur du séjour sous terre. Il est empreint d'histoire. Un musée en plein air, exposant ses constructions mortuaires au fil des chemins escarpés. J'y flânais comme je l'aurais fait au quartier latin. Ce que je voudrais raconter, c'est le gros matou roux qui vint vers moi dans la première allée. Nous étions seuls. Il s'avança majestueusement dans ma direction. Je le caressais. Il concéda quelques allées et venues de ma main sur sa tête. J'avais tellement l'habitude de côtoyer les chats que je n'y fis pas attention. Lorsqu'il sauta sur une tombe et que je l'y vis juché comme en arrêt, en propriétaire des lieux, je me souvins de la légende du gros chat roux. Lors de ma dernière visite, j'avais parlé de cet esprit que la tradition disait occuper les lieux. Je m'autorisais à y voir un signe, et il était net. Les coïncidences, rencontres, se multipliaient. Elles parcourent ce récit, mais je gardais un reste de scepticisme. J'aurais voulu que les signes soient éclatants, sans doute que le ciel s'ouvre et que le Bouddha me parle, qu'une grande lumière m'inonde et que j'entende la voix de Dieu. C'était plutôt la figure du pendule de Foucault qui descendait vers moi. Dans ce roman, Umberto Eco narre une histoire à deux niveaux. Un homme attend, caché au musée du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, la manifestation de la conspiration des Templiers. Après l'exécution de leur chef au tout début du XVIe siècle, l'ordre avait mené une existence secrète et avait des rencontres mystérieuses qui devaient les mener cette nuit-là devant le narrateur. Mais il n'y avait pas plus de templiers que de conspirations. En sémiologue averti, l'auteur montrait qu'on pouvait croire en n'importe quoi en interprétant les signes. C'était un aiguillon dans ma recherche. Je savais bien qu'on pouvait frôler une maladie psychiatrique à s'interroger et à attribuer un sens à tout ce qui nous entourait. J'avais bien conscience que je tirais un fil et que tout un monde m'apparaissait. Fallait-il s'efforcer à l'incrédulité, là où les signes étaient patents ? Qu'est-ce que je ne pouvais décemment pas considérer comme le simple fruit du hasard ? Tout d'abord, la rencontre avec Eduardo Pastor, ensuite celle, quasi concomitante, avec la femme du Salon du Livre, puis celle avec cette Amélie, au lancement de la Passion de Tiradentes à Oro Preto, qui était venue me dire que les inconfidents étaient toujours parmi nous. L'irruption de Lisangela dans ma vie était intervenu à point aussi pour me faire découvrir la mouvance bouddhiste. Et maintenant, le chat roux dans le cimetière. Tout se passait comme si on voulait m'encourager à continuer à chercher. J'avais peut-être oublié dans ma liste la preuve la plus flagrante. Ce nom, Ezema, dont mon rêve avait clairement indiqué qu'il était le mien et que mon rôle était de transmettre des connaissances.